Magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Spotkania europejskie.
Rozumiem tutaj Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromy z Europy.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe, bienvenue à Marseille à l'occasion des rencontres d'Averroès qui depuis 24 ans s'efforce de penser la Méditerranée des deux rives. Avec cette année, une interrogation, quel chemin pour la liberté face au sacré et à la montée de l'extrémisme religieux, face à la terreur terroriste, face au bouleversement économique et numérique et face au pouvoir autoritaire qui prospère un peu partout sur la planète, bien sûr autour de la Méditerranée mais même au sein de l'Union Européenne. À des degrés divers, ces pouvoirs ne sont plus tout à fait des démocraties, pas encore des dictatures. On les appelle des démocratures, contraction de démocratie et de dictature, ou encore des démocraties illibérales. Ces pays ont gardé une façade démocratique, faite d'élections gagnées d'avance, d'une presse de plus en plus sous contrôle et d'une justice en coupe réglée. C'est par exemple le cas de la Russie de Vladimir Poutine, de la Turquie de Recep Tayyip Erdogan, ou encore de la Hongrie de Viktor Orban et de la Pologne de Jaroslav Kaczynski. L'illibéralisme, une menace pour l'Europe? Pour en parler, nous avons posé nos micros au Théâtre de la Criée à Marseille, réunis trois invités, je vous les présente. Bonjour, Cengiz Aktar.
Bonjour, Daniel
Zesquet. Vous êtes politologue turc et vous êtes enseignant à l'université d'Athènes. Vous nous expliquerez pourquoi, finalement, vous avez fait le chemin d'Istanbul à Athènes. On peut déjà un peu le deviner. Votre dernier livre, L'appel au pardon, est paru aux éditions CNRS Éditions. Évidemment, c'est le pardon des Turcs, du gouvernement, peut-être du peuple turc, à l'égard des Arméniens. Évidemment, à Marseille, ça a une résonance toute particulière. Marilena Coppa, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de politique comparée à l'université Pantaleon d'Athènes. Vous êtes par ailleurs une ancienne députée européenne socialiste, c'est-à-dire qu'à l'époque vous étiez une eurodéputée du PASOK. Et Jacques Rupnik, bonjour Jacques Rupnik.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche à Sciences Po Paris, conseiller, vous avez été plutôt conseiller du président tchèque Václav Havel. Votre dernier livre, Géopolitique de la démocratisation, l'Europe et ses voisinages, est paru aux presses de Sciences Po. Jacques Rupnik, est-ce qu'on peut donner une définition un peu plus précise des démocraties libérales que j'ai citées dans mon introduction? Comment on peut les définir un peu mieux? Qu'est-ce qu'une démocratie libérale? Qu'est-ce qu'une démocrature?
Illibérale, par définition, ça veut dire non libérale. C'est-à-dire une démocratie où il y a des élections, le peuple s'exprime dans les urnes, mais il n'y a pas la séparation des pouvoirs, il n'y a pas les contre-pouvoirs. C'est ça, la définition la plus simple. C'est la prétention qu'ont un certain nombre de leaders et de partis. On le voit en Hongrie, en Pologne aujourd'hui, au nom d'élections gagnées, de s'arroger, disons, le monopole de la décision politique. Voilà, non-acceptation du pluralisme, en fait. Parce que c'est ça la définition du populisme, c'est la prétention au monopole de la représentation du peuple. Et je crois que ça, c'est une des caractéristiques communes. Il y a ensuite des différences énormes. Ce qui se passe en Pologne et Hongrie est quand même bien loin de ce qu'on voit en Russie ou en Turquie.
Alors justement, en Turquie, ce pays, la Turquie, est aujourd'hui l'illustration d'une démocratie illibérale ou d'une démocrature. C'est relativement surprenant car pendant très longtemps, Cengiz Aktar, la Turquie s'est tournée vers la démocratie libérale, vers l'Europe.
En fait, je crois qu'il faut arrêter de parler de la démocratie.
En Turquie.
On peut pas parler d'un état de droit en Turquie. Alors pourquoi parler de la démocratie? Parce qu'il y a des élections? Non. Je crois que même le terme démocratie libérale qui nous vient des États-Unis ne colle pas tellement avec ce qui se passe parce que la démocratie est loin de se limiter aux élections. Et comme Jacques Rupnik vient de le dire, ces gens, une fois qu'ils ont gagné les élections, ils disent, le peuple nous a donné un mandat, on fait ce qu'on veut. On représente le peuple, c'est-à-dire on a la légitimité totale et on ne demande rien à personne. Alors, il y a aussi un autre terme qui nous est pas encore venu en France, des États-Unis, le majoritarianism, c'est-à-dire
le fait majoritaire.
Le fait majoritaire, il gagne les élections, tout le reste ne compte pas. Et très souvent, c'est 49% de la population. Alors, la Turquie, eh bien, avait essayé dans le temps, grâce à l'Union européenne, et d'ailleurs, Carrefour de l'Europe, en turc, ça se dit Avrupa Kavşağı, peut-être qu'on peut l'introduire, mais était vraiment au carrefour de l'Europe, sinon à la porte de l'Europe depuis 59.
Entre les deux mondes, bien sûr. Bien sûr,
voilà. Et tout ça, ça a foiré, parce que...
Ouais. Pourquoi ça a foiré?
Eh bien, Benachour, qui est le grand ordonnateur de la constitution tunisienne, posait la question jeudi aux rencontres d'Averroès. Il disait, mais pourquoi ça foire toujours chez nous, hein? Pourquoi ça se referme
toujours? C'est-à-dire, pourquoi ça foire toujours dans les pays musulmans?
Quand il était chez nous, voilà, il parlait du monde arabo-musulman. Et moi, je qualifie ça de la parenthèse Averroès. Averroès, Ibn Rushd, qui était l'ouverture libérale de l'islam, hein, n'est-ce pas, au Moyen-Âge, et traducteur de passeur d'Aristote vers les Lumières, etc. Alors cette parenthèse-là s'est refermée très vite en Turquie, malheureusement. On est retombé dans les interprétations les plus radicales de l'islam qui règnent dans l'islam sunni, à savoir l'imam Ghazali. Donc ça a encore raté. Il faut vraiment réfléchir pourquoi ça rate. Mais pas seulement dans le milieu turc ou dans le milieu ou tout autre pays arabe qui ont tenté le coup, qui cherchent le coup, mais aussi en Europe, n'est-ce pas? Comment ça se fait que l'Europe n'arrive pas à composer avec un pays musulman? C'est vraiment un rendez-vous raté, hein, historique.
Un rendez-vous raté des deux rives du Bosphore, on pourrait dire.
Parce qu'une Turquie européenne, aurait signifié vraiment autre chose pour la région, pour l'Europe, pour le monde entier. C'est ça qu'on disait encore il y a pas longtemps, ouais. 2004, 2005, 2006, une Turquie européenne, et tout le monde disait, mais vous vous rendez compte ce que ça pourrait apporter comme stabilité, comme exemple à la région, etc. Alors tout ça a foiré.
Alors est-ce qu'il n'y avait c'est une question qu'on poserait un peu plus tard, mais est-ce qu'il n'y a pas eu un jeu de poker menteur entre les Turcs qui n'avaient peut-être pas forcément envie de rejoindre l'Union européenne et les Européens qui n'avaient aussi en grande partie pas envie
au niveau du gouvernement turc peut-être, mais au niveau de la société civile turque, non, pas du tout. Non, la société civile turque vraiment a ébranlé le système grâce à la dynamique européenne, grâce aux réformes que le gouvernement mettait en place avec l'appui de l'opposition. Là je parle de 2000 à 2005, et tout s'est arrêté là tout d'un coup, et les Européens étaient tout contents. Ils ont dit, ceux-là, ils ont laissé tomber, un poids en moins. Quel poids, hein, musulman, plus 80 millions.
80 millions d'habitants. Alors, à côté de la Turquie, il y a un pays qui s'appelle la Grèce. Marilina Coppa, vous êtes professeur à l'Université Panteion d'Athènes. En Grèce, cet illibéralisme, il n'a pas vraiment vu le jour, malgré les terribles difficultés qu'a connues la Grèce, perte de pouvoir d'achat, des retraites rognées, un chômage de masse considérable. Le fonctionnement démocratique a plus ou moins marché, vous le diriez ou pas?
Si, quand même, la démocratie a marché avec beaucoup de problèmes, parce qu'il y a des problèmes de qualité de la démocratie grecque. Mais, par exemple, on n'a pas vécu un extrémisme de droite radicale. Malgré les problèmes, la contestation était absorbée surtout par la gauche de Syriza, qui, après un certain moment, est devenu le gouvernement,
un parti de gouvernement,
et alors est devenu un parti comme tous les autres, en acceptant les programmes européens, les memoranda et tout ça. Et l'extrémisme de droite en Grèce, ça fait autour de 8%, au même moment que...
L'extrémisme de Grèce, c'est essentiellement le parti Aube Dorée, qui est un parti fasciste et même au-delà.
Oui. Avec des symboles nazis, c'est clairement nazi. Mais ça fait 8% au moment de la très grande contestation sociale, et c'est resté là, avec 17 députés, et c'est surtout marginalisé. On peut pas dire que ça a vraiment un impact dans le processus politique. Alors, toute la contestation, tout le radicalisme était absorbé par Syriza, Et maintenant, et c'est vraiment intéressant qu'il n'y a pas de démo, il n'y a plus de démonstration, plus une contestation massive. On va voir où tout ça va mener, parce que je peur qu'en dessus, en dessous, il y a quelque chose qui va
bouillonne,
bouger,
qui, ouais, bouillonne,
qui bouillonne.
Il peut y avoir un retour de flamme, comme on peut
dire. Oui, mais pour le moment, le pays semble stabilisé, la démocratie marche à peu près normalement. Il n'y a pas de problème important.
Alors, Jacques Leclinck, cette notion d'illibéralisme, elle a été théorisée, je crois, par un essayiste américain du nom de Farid Zakaria, dès 1997. Alors, qu'est-ce qui fait que dès cette année 1997, cette notion d'illibéralisme est arrivée suffisamment forte pour qu'on la théorise ?
Je crois que ce qui avait frappé Farid Zakaria, qui était politologue au départ et qui est maintenant un journaliste connu sur CNN, c'était l'idée que après 89, vous avez en Europe, mais dans le monde entier, une prolifération des démocraties.
89, c'est évidemment la chute du mur.
Chute du système communiste, il y a une prolifération de nouvelles démocraties. Et donc, il y a eu un moment triomphaliste au côté occidental, et lui avait mis un premier bémol, il disait oui, ce sont des régimes qui organisent des élections, mais est-ce que ce sont des démocraties au sens où nous l'entendons, avec la séparation des pouvoirs, et avec l'état de droit ? Or, en Occident, la démocratie s'est construite avec d'abord les droits civiques, ensuite, les droits politiques. D'abord, l'état de droit, et ensuite, la représentation et les élections. Là, on fait d'abord les élections, et l'état de droit, ben, on le construit peut-être, etc. Et donc, il mettait en garde, en quelque sorte, contre ce triomphalisme, et il faisait l'inventaire des régimes qui lui semblaient problématiques. Évidemment, certains, c'était relativement clair. La Serbie de Milosevic, il y avait des élections, mais elles n'étaient pas exactement libres et non faussées. Mais la Serbie, la Biélorussie, il allait jusqu'au Pakistan, la Slovaquie de l'époque des années 90, il y avait une longue liste de pays qui disaient « oui, ils ont des élections, ils se considèrent comme la démocratie, ils sont même catalogués comme tels par des organismes internationaux comme Freedom House, mais ce ne sont pas vraiment des démocraties libérales au sens où nous l'entendons. » Mais bon, c'était une distinction que lui introduisait et qui, à l'époque, n'avait pas suscité énormément d'intérêt. Ce qui a suscité l'intérêt, c'est lorsque un politique, le premier ministre de la Hongrie, s'est réapproprié le terme. Ça, c'est très rare. Vous savez, généralement, la science politique étudie les phénomènes politiques. Là,
c'est l'inverse.
Le politique qui s'approprie un concept de science politique et dit « oui, on me critique, on dit que je ne respecte pas telle ou telle liberté ». Mais ça, c'est au nom d'une conception libérale de la démocratie. Moi, j'ai une autre conception de la démocratie, c'est la souveraineté du peuple. Et je fais ceci et cela. C'est pas d'ailleurs le seul cas. Regardez en Espagne, le leader de Podemos se réclame des concepts de populisme. Et lui, alors, considère ça comme une qualification positive, un concept qu'il emprunte à un autre politologue, Ernesto Laclau, un politologue très connu, sud-américain d'origine, qui a enseigné à Essex en Angleterre, et il s'approprie donc le terme de populisme comme une chose positive. C'est le conflit qui revient. La droite et la gauche, c'est plus le vrai conflit politique. Non, le vrai conflit, c'est le peuple contre les élites.
Alors, évidemment, dans les libéralistes, vous venez de le dire, Jacques Leclinck, les élites sont malmenées, et d'une manière générale, seul le peuple a raison, ça marche, mais pourquoi ça marche ? Parce que les classes moyennes se sentent défavorisées, sont massacrées par la mondialisation, n'y ont pas accès. Pourquoi ça marche autant que ça ?
Ça marche différemment dans différentes circonstances. Il y a des pays, et ça concerne en gros les pays occidentaux, où on a vu avec la mondialisation, et surtout depuis la crise de 2008, la marge de manœuvre des gouvernements, la Grèce est bien placée pour le savoir, la marge de manœuvre des gouvernements se restreint. Que ce soit à droite ou gauche, vous êtes obligés d'être. Et les Grecs n'aimaient pas le plan qui était proposé par l'Union européenne. Ils ont voté contre. Il y a eu un référendum. Et ils l'ont eu quand même. Donc vous avez cette idée que dans le contexte de la mondialisation, la marge de manœuvre des gouvernements est beaucoup trop restreinte. Ça, c'est une des raisons pour le populisme. En Europe de l'Est, c'est pas des causes économiques, parce que l'économie se porte bien. L'économie polonaise va bien, l'économie hongroise va bien. Oui. Là, ce qui a été le catalyseur...
Il y a des taux de croissance importants, les taux de chômage sont très faibles.
Oui, donc là, le catalyseur, disons, du moment populiste, c'est pas le seul, mais le principal récemment, ça a été la vague migratoire. Là-dessus, c'est cristallisé un discours. Nous devons protéger la nation. Donc là, on passe du peuple à la nation. Et le leader populiste, il est là pour protéger la nation, si nécessaire, en construisant une clôture, car nous avons une vague migratoire sans précédent qui nous vient du Moyen-Orient, par la voie ottomane, par la Turquie, les Balkans, etc. Donc dans la mémoire centre-européenne, ça résonne. Et donc là, on a un populisme qui se focalise surtout sur les questions identitaires. On a le binôme souveraineté-identité. On défend la souveraineté. Pourquoi ? Parce que nous devons protéger notre identité.
Jean-Marie Le Pen avait dit un jour, j'aime beaucoup les Turcs, mais chez eux.
Hein. Alors, le souverainisme, le nationalisme et l'identité, c'est un peu, en résumé, le programme de Recep Tayyip Erdogan, qui a quand même cette idée de reconstruire, en tout cas dans l'imagination, l'Empire ottoman défunt.
Voilà. Mais vous savez, il y a une synergie entre ces gens-là. Monsieur Erdogan ne peut pratiquement plus voyager en Europe, sauf dans les pays comme ça. Il va à Budapest, il est accueilli, embrassé sur les deux joues par son pote Orban. Idem pour la Pologne, là, il était aussi en Pologne. Là, il est chez lui. Hein, et puis avec la Russie, mon Dieu, mais c'est le grand amour. Voilà. Tous ces gens-là jouent sur, vous savez, l'irrédentisme hongrois. Attention, le traité de Trianon. Trianon, 1920, les Turcs ont déchiré le traité de Sèvres, Trianon est là. Alors évidemment, lui, il joue Orban sur ça, mais à fond. Vous savez, le ministère hongrois des Affaires étrangères s'appelle le ministère des Affaires étrangères et des Hongrois de l'extérieur. Attention. Alors Erdogan, c'est pareil. Erdogan mise sur l'Empire ottoman.
Les Turquies de l'extérieur.
Mais il en est fier. Personne n'avale ça. L'amour entre les Arabes, surtout de Machrek, et la Turquie, ça fait deux. Hein. Le Cemal Pasha, il est connu pour ses purges des intellectuels arabes à Damas. Enfin, il les pendait les uns après les autres. Donc ça c'est des bobards, enfin, c'est des mythes. Mais ça marche à l'intérieur. Hein, ça marche à l'intérieur. Alors l'Empire ottoman, on va reconstruire l'Empire ottoman. Monsieur Erdogan est un leader universel. Hein, mais tout ça, c'est gobé par 50% de la population. Ces gens-là dorment très bien cette nuit quand ils ont entendu que leur leader était un des leaders du monde.
Alors ça fonctionne de l'univers. Ça fonctionne très bien à l'intérieur des frontières turques, mais en dehors de la Turquie, notamment dans le monde proche oriental, la Turquie était regardée comme un modèle à l'époque où elle sera.
Ça c'est autre chose.
Avant, bien sûr. Et aujourd'hui, cette image de la Turquie d'un pays moderne qui fonctionne bien et qui a, disons, conjugué avec bonheur islam et démocratie, c'était une époque où la Turquie vraiment était un phare de la pensée universelle, pour reprendre vos propos.
En 2004, exactement en décembre 2004, lorsque les Européens ont accepté le principe d'ouvrir les négociations d'adhésion avec la Turquie à Bruxelles, la majorité écrasante des journalistes étaient des journalistes arabes. Ça dit tout, n'est-ce pas? Et c'était comme si eux, ils allaient dans l'Union européenne. Mais pourquoi? Pour ces gens-là, pour les pays de la région, un pays qui ressemble au leur, eh bien, allait pouvoir peut-être un jour devenir membre de l'Union européenne. Mais vous vous rendez compte de l'espoir que ça suscitait? Voilà.
Immense gâchis.
Ah, ça.
Djengiz Artar, on va faire une pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, le temps de prendre connaissance des dernières nouvelles de la planète. On se retrouve à Marseille avec nos invités au Théâtre de la Criée, très exactement dans 3 minutes. A tout de suite.
Carrefour de l'Europe sur RFI.
que vous allez suivre est une rediffusion.
Spotkania europejskie.
Rozumiem tutaj Europę.
Rozkrucia Europy.
Stawrodromy z Europy.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Rebonjour Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Nous sommes toujours à Marseille, au théâtre de la Criée, sur le Vieux-Port, à l'occasion des 24e rencontres d'Averroès, et nous continuons à nous interroger quelle liberté face au pouvoir autoritaire. Autrement dit, ces démocratures, contraction de démocratie, de dictature, ou ces démocraties illibérales qui prospèrent à la surface du globe, en Russie, en Turquie, par exemple, mais aussi au sein de l'Union Européenne, comme en Hongrie ou en Pologne. Je vous représente rapidement les invités qui nous ont rejoints ici à Marseille, au théâtre de la Criée. Cengiz Aktar, politologue, professeur à l'université d'Athènes. Son dernier livre, L'appel au pardon, CNRS édition. Marilena Coppa, professeure de politique comparée à l'université Panthéon d'Athènes, ancienne députée européenne socialiste. Jacques Rupnik, directeur de recherche à Sciences Po Paris. Il fut le conseiller du président tchèque Václav Havel. Et son dernier livre, Géopolitique de la démocratisation, l'Europe et ses voisinages, aux presses de Sciences Po. Mais avant de reprendre notre débat, nous allons faire un détour par la rédaction de Courrier International. Bonjour Joël Le Pavou.
Bonjour Daniel.
Courrier International, dont vous êtes le correspondant à Budapest. Budapest, la capitale européenne de l'illibéralisme.
Oui, tout à fait, Daniel, dans la mesure où, si vous voulez, l'illibéralisme est un concept qui a été un petit peu théorisé par Viktor Orban, justement, en 2014, lors de l'université d'été de son parti, le Fidesz, en Transylvanie. Et donc, derrière l'illibéralisme, il faut entendre par là une sorte de régime à rebours des principes libéraux classiques des démocraties occidentales, comme disait Viktor Orban en 2014. Et selon, en tout cas, l'économiste Janos Kornay, interrogé par le magazine HVG, le magazine HVG, une sorte de système qui est bien parti pour rester, étant donné que Orban, en lui-même, que ce soit en confisquant l'économie ou en instaurant une sorte d'oligarchie à grande échelle en Hongrie, risque de persister, tout du moins jusqu'en 2000, éventuellement en 2047, comme le suggère la une de HVG, montrant un Orban à la fois vieilli, au crâne dégarni et avec tous les atours du régime communiste de l'époque que lui-même combattait dans les années 80.
Alors c'est vrai qu'il est encore jeune hein, aujourd'hui et donc il a une vie politique potentielle assez importante devant lui, bien évidemment.
Tout à fait. Alors, Viktor Orban a eu 54 ans. Voilà, il s'est lancé en politique lorsqu'il était encore étudiant en droit à Budapest et c'est à ce moment-là qu'il a donc fondé ce jeune parti, le Fidesz, donc l'alliance des jeunes démocrates, des démocrates qui aujourd'hui ne sont plus très très jeunes mais ont encore un avenir politique devant eux. Et il est vrai que comme il n'y a pas de limitation des mandats en Hongrie, Viktor Orban est bel et bien parti, comme tous les sondages d'opinion le montrent, pour enchaîner un troisième mandat consécutif après celui de 2010 et de 2014.
Alors il faut noter que l'illibéralisme perturbe un peu les partis politiques, notamment en Hongrie, qui ne semblent pas trouver la parade, ou en tout cas une alternative aux propos et à la politique de Viktor Orban.
Le fait est que effectivement, les partis d'opposition ne trouvent tellement pas la parade qu'ils sont extrêmement déstabilisés face à Viktor Orban et face au Fidesz lui-même que Viktor Orban personnifie en étant la grande figure de la vie politique hongroise. Il n'y a par exemple plus de candidats socialistes d'opposition depuis le retrait du maire de Szeged, László Botka. Le premier parti d'opposition en l'occurrence est le parti d'extrême droite Jobbik qui plafonne lui à 14 ou 15% des intentions de vote, tandis que le restant des partis dits de gauche ou d'opposition ou progressiste cumulent quant à eux une petite vingtaine, 25%, soit exactement le score qu'ils avaient réalisé en 2014 quand ils avaient tenté de former une alliance contre Viktor Orban.
Merci Joël, Courrier International, l'hebdo, courrierinternational.com, le site. Marilena Coppa, vous vouliez réagir un peu à Viktor Orban et à son illibéralisme?
Tout à fait. C'est impressionnant comment l'Union européenne n'a pas pu résister à Orban et aux autres illibéraux de l'Europe centrale sur la question des réfugiés. En acceptant finalement l'agenda de Orban et en fermant les frontières et surtout la route balkanique, et l'Union européenne est devenue une force de déstabilisation au lieu d'être, comme auparavant, une force de stabilisation. Et on a bloqué des milliers de gens en Grèce, dans des conditions minables, sans pouvoir faire preuve de la solidarité qui est une notion au cœur de l'Union européenne.
C'est évidemment un sentiment qui a été largement partagé en Grèce.
Ah, tout à fait.
Évidemment. Jacques Rupnik, une des explications de cette montée des démocratures et de l'illibéralisme, c'est le faible discours des partis politiques traditionnels de gouvernement, qu'ils soient de droite ou de gauche. D'abord, on a l'impression que c'est un petit peu la même chose à droite comme à gauche. Et c'est encore plus vrai, je pense, pour les partis sociaux-démocrates.
Les temps sont durs pour les partis sociaux-démocrates partout en Europe. Je dirais que c'est un phénomène général. On l'a vu partout, même en Allemagne.
Lors des élections allemandes, le SPD a connu son plus bas score depuis sa naissance.
Oui, donc là, je pense que c'est un phénomène transeuropéen. En partie, c'est dû au fait que le programme social-démocrate a été en quelque sorte rempli. C'était l'idée, après la guerre, de l'État-providence, d'une certaine justice sociale qui serait introduite dans une économie de marché. Et surtout, il y avait l'opposition au monde communiste. Là, avec la crise économique, l'espace pour la redistribution est très limité aujourd'hui. Donc la social-démocratie essaie de se réinventer. Et certains ont voulu passer de la question sociale aux questions sociétales. Et donc vous avez une gauche qui essaie de se réinventer en allant sur les droits de la femme, les droits des mariages gays, le multiculturalisme, etc. Donc on passe aux questions sociétales. Donc c'est du libéralisme de gauche sur des questions sociétales. Mais ça laisse un problème. Peut-être qu'on peut trouver les classes moyennes urbaines qui s'intéressent à ce genre de problématiques. Mais en gros, ça laisse beaucoup d'espace à la droite parce que vous avez là un électorat populaire qui se tourne vers les populistes. Mmh. Et vers les populistes qui sont
soit de anti-immigration.
Voilà.
Soit de gauche.
Oui, alors dans l'Europe du Sud, en Grèce ou en Espagne, ils sont à gauche. Mais dans l'Europe du Nord, ils sont plutôt à droite. Ce qui est intéressant, c'est que ce populisme-là prospère dans une Europe qui va bien. C'est-à-dire, c'est les pays. C'est pas lié directement à une situation économique.
Bien sûr, l'Europe a connu des difficultés. Tous les Européens ne vivent pas extraordinairement bien. Il y a des pauvres en Europe, bien sûr. Mais globalement, si on regarde l'Europe à l'aune du reste de la planète, évidemment, c'est un continent qui fonctionne plutôt bien.
Il y a ce sentiment que, sur le plan de la sécurité, mais je dirais au sens aussi de la sécurité culturelle ou identitaire, il y a une perception de ce monde-là comme une menace. Et bien sûr, l'effondrement des États, de la Libye jusqu'à la Syrie, ISIS, l'État islamique, et la terreur qu'il a fait régner, puis la vague migratoire, tout ça conjugué a créé un climat propice à un discours
identitaire
un repli. Donc ça a favorisé les partis populistes de droite.
Cengiz Aktar, vous vouliez réagir.
Quand on regarde de près, ce sont souvent des pays et des sociétés, des États et des sociétés qui n'ont pas fait leur mea culpa par rapport à la Shoah. Faut pas oublier ça quand même. Vous savez, la Pologne, quand vous parlez aux Polonais, d'où le film de, n'est-ce pas, de la Shoah, hein, quand vous parlez aux Polonais des Juifs polonais, ils commencent à regarder le ciel et ils sifflent. Hein, ils n'en ont jamais parlé. Les Hongrois, c'est pareil. Les Allemands de l'Est, c'est pareil. Sauf à part l'Allemagne occidentale,
c'est un travail de mémoire fabuleux, bien sûr.
Bien sûr. Mmh. Et là, ça prend pas. Alors que dans tous les autres pays, n'est-ce pas, c'est cette mémoire négative, n'est-ce pas, dont on n'a jamais parlé. Eh bien, elle est encore là et elle revient en force très facilement d'ailleurs. L'exclusion, le rejet de l'autre se met en place aisément dans ces sociétés qui n'ont jamais regardé le miroir et leur passé en face.
Les propos de Cengiz Aktar m'invitent à vous poser cette question suivante, Marilina Coppa. Évidemment, ce travail de mémoire en Grèce, il n'a pas été fait non plus. Lorsqu'on voit la Grèce qui réclame des démarches de guerre, alors que, évidemment, on est à 70 ans, ou quand on voit des caricatures où Angela Merkel, pendant la crise maximum de Grèce, transformée en Adolf Hitler, évidemment, on se dit que le travail de mémoire mort en Grèce n'a pas été accomplie totalement non plus, bien évidemment.
Mais... Non, ça c'était des exagérations et maintenant tout ça s'est terminé. C'était un des trucs d'une certaine fraction du Syriza qui voulait vraiment créer une tension avec l'Allemagne et personnaliser notre problème. C'est vrai, d'ailleurs, et il faut être honnête, que l'Allemagne, pendant toute la période de la crise grecque, était le leader européen qui a imposé les règles du jeu. C'était Angela Merkel qui a imposé les règles du jeu. Alors, c'était facile pour une certaine partie de Syriza et de tout le système politique de personnaliser ce qui était l'ennemi, soi-disant. Mais maintenant, tout ça s'est passé, l'image... d'insultes contre les Allemands, mais c'était vice-versa. Vous rappelez peut-être des images très insultantes.
Et des fameux pays du Club Med.
Voilà.
Alors, Marie-Léa Copin, je voudrais que vous répondiez à une question que j'ai posée à Jacques Rupnik et que par définition, vous n'avez pas répondu, mais c'est quand même l'effondrement de la social-démocratie. La Grèce est évidemment un pays qui illustre cet effondrement de la social-démocratie. Il n'est pas le seul, mais le PASOK était au pouvoir longtemps. Il y a eu une alternance entre la nouvelle démocratie et le PASOK. Le PASOK s'est effondré. C'est aujourd'hui donc Syriza qui occupe. Mais vous, en tant que ancienne députée européenne socialiste du PASOK, ce travail un peu théorique de la social-démocratie, on l'attend toujours.
La social-démocratie est en crise partout. Moi, je pense que c'est avant la crise financière. C'est surtout à partir de 89. Où la social-démocratie a perdu l'hégémonie idéologique en Europe. Et elle n'a pas pu créer un discours moderne pour adresser la nouvelle réalité européenne. D'autre part, la question est le modèle social européen. C'est quelque chose de passé, c'est uniquement pour les périodes de prospérité. Moi, je pense que c'est très important, c'est l'âme de l'Europe. Il faut vraiment trouver un moyen pour le garder vivant, parce que le droit au travail en Grèce, qui est très touché, on a un chômage de 30% et parmi les jeunes de 60%. Les droits au travail, c'est quelque chose de très pressant, et pas uniquement dans mon pays, mais partout. Alors, je suis tout à fait d'accord du glissage vers le sociétal, mais il faut pas oublier le social. Je crois, si la social-démocratie a un pouvoir de renaître, est vraiment de travailler encore sur le social et sur ce qu'une social-démocratie peut dire aujourd'hui sous les conditions actuelles pour le social, pour le droit au travail, pour les salariés et pour ce qui est le modèle social européen.
Carrefour de l'Europe, nous sommes à Marseille dans le cadre des rencontres de la VROS, les 24e du nom, et nous interrogeons sur existe-t-il une menace illibérale en Europe? Je vous rappelle le nom de nos invités, Cengiz Aktar, politologue turc et professeur à l'université d'Athènes, Marie-Léna Coppa, professeur de politique comparée à l'université Panthéon d'Athènes, et Jacques Rupnik, directeur de recherche à Sciences Po Paris. Jacques Rupnik, j'aurais qu'on dise un mot quand même sur le rôle de la Russie dans cet illibéralisme. Vladimir Poutine l'a lui aussi extraordinairement théorisé en disant ce qui se passe en Occident, ça ne nous intéresse pas. C'est pas notre monde, c'est pas notre histoire. Même si pendant les années Yeltsin, il y a eu là aussi un regard de la Russie vers l'Occident, vers l'Europe.
Oui, Poutine a voulu tourner la page, disons, des années 90, qui était une phase d'imitation de l'Occident. On veut se rapprocher de l'Occident, on veut réformer, on fait, et même en politique étrangère, on est suiviste par rapport à l'Occident. Je l'ai vu dans le conflit des Balkans. Les Russes étaient très réservés sur beaucoup de choses, mais ils ne faisaient rien. Là, avec Poutine, ça a changé. L'idée que rétablir la Russie comme puissance, comme acteur sur la scène internationale, ça, c'était l'objectif majeur. Et deuxième chose, rétablir le rôle de l'État à l'intérieur, après une période de dissolution de l'État. C'est la période... passage au capitalisme oligarchique, en quelque sorte, sous Yeltsin. Et là, on a une troisième phase avec Poutine, les années récentes, qui est l'idée que on n'est plus là pour plaire aux Occidentaux et à se plier à leurs injonctions, mais on est là pour affirmer la puissance russe dans son voisinage. C'est-à-dire qu'on rétablit l'idée du rôle de la Russie impériale. L'idée, disons, oui, héritée de l'Empire, héritée de l'Union soviétique, et qu'on reprend, et on veut reprendre pied dans les anciennes dépendances. Et ça, ça va du Caucase, la Géorgie, jusqu'à l'Ukraine. Et on a vu que ça peut prendre une tournure très militaire avec l'annexion de la Crimée. Et ça, c'est un discours qui résonne chez les Russes. Et c'est le pouvoir actuel ne se légitime pas par des réformes qui vont plaire aux Occidentaux. Non. Et il se légitime par une démonstration de force en Syrie, d'une part, mais surtout par l'idée, nous sommes là pour rétablir notre influence dans la périphérie de la Russie. Nous sommes là, comme le dit Poutine, pour protéger les Russes en dehors de la Russie. Il y a quand même plusieurs dizaines de milliers de Russes en dehors des frontières de la Russie.
Dizaines de millions.
Oui. Donc, et l'idée qui est en vogue aujourd'hui en Russie, c'est l'idée eurasienne. Nous ne sommes pas dans une imitation. Nous sommes là, nous sommes quelque chose d'unique entre l'Europe et la Russie. Et l'idée eurasienne, qui est une vieille idée d'ailleurs, et bien sûr...
Que Vladimir Poutine n'a pas inventé.
Et qu'il n'a pas inventé, ça remonte au 19e siècle. Il y avait les slavophiles qui avaient leur variante là-dessus. Et dans les années 20, ensuite, des philosophes comme Berdiaev, qui étaient d'ailleurs en exil, c'était des Russes exilés souvent, qui développaient cette idée, et que Poutine se réapproprie aujourd'hui. Donc, pas d'imitation de l'Occident. Vos injonctions, vous les gardez pour vous. Nous sommes une puissance et nous rétablissons notre influence dans ce qu'était autrefois l'Empire.
Alors, pas d'imitation de l'Occident pour l'Empire russe, en tout cas l'idée que Vladimir Poutine s'en fait. Nostalgie aussi de l'Empire austro-hongrois. Alors, évidemment, à un moindre niveau de la part de Viktor Orban.
Nostalgie, disons, de la Hongrie, oui. Parce que dans l'Empire austro-hongrois, il faut le rappeler, pendant des siècles, la Hongrie a régné sur un territoire qui comprend la Croatie d'aujourd'hui, par exemple, mais qui comprend la Slovaquie d'aujourd'hui, et une partie de la Roumanie d'aujourd'hui. Donc, évidemment, c'était la période
de Hongrie.
Et oui, pour les Hongrois, bien sûr, cette période était une période faste. Peut-être la période la plus faste, c'était la fin du 19e, du dualisme austro-hongrois, hein,
c'est Vienne
et Budapest, 1867, jusqu'à la Première Guerre mondiale. Ça, c'est l'âge d'or, je veux dire, de la Hongrie. Après, la guerre, le traité de Trianon, un tiers de la nation hongroise se retrouve en dehors des frontières de la Hongrie. C'est le grand traumatisme. Et d'ailleurs, l'autoritarisme et le nationalisme du régime de l'entre-deux-guerres se nourrissaient de cette frustration. Aujourd'hui, Orban, à sa façon, reprend ce fil, et c'est un très mauvais fil.
Alors, on l'a dit un peu, Genghis, à part, il y avait aussi l'idée de la restauration de l'Empire ottoman. Bon, on l'a dit un peu pendant la première partie, mais on peut y revenir un instant.
Ça ressemble beaucoup, n'est-ce pas, à l'Empire russe. La seule différence, c'est que les Russes ont commencé 100 ans avant, avec Pierre le Grand. Et ce mouvement anti-occidental, cette veine, elle est très forte en Russie. Elle revient maintenant en force, idem en Turquie. C'est identique. C'est la seule chose qui réunit d'ailleurs, sérieusement, la Russie et la Turquie aujourd'hui. Sinon, ce sont deux empires qui se sont toujours regardés en chien de faïence. Hein. Il n'y a jamais aucune stratégie commune, voire même peut-être tactiques dans l'histoire, n'est-ce pas, de l'Empire ottoman et de l'Empire russe, mais sinon rien. Sans parler de l'orthodoxie, donc c'est-à-dire l'Empire ottoman, malgré la conquête de Constantinople, représentait l'orthodoxie chrétienne et pas Moscou, attention, qui a toujours essayé de devenir le troisième Rome, ça n'a jamais marché. C'est toujours resté Constantinople. Donc là, mais aujourd'hui, ces deux autocrates, ils parlent exactement le même langage. Je l'ai dit en salle, n'est-ce pas, ils tirent leur légitimité d'un anti-occidentalisme, mais viscéral, n'est-ce pas, en disant nous, tout ce que vous faites, ça
on
nous intéresse
pas.
Voilà.
Marina Koppa, un petit mot sur en quoi l'Europe a failli. Alors évidemment, quand on est grec, l'Europe a failli. Voilà. Mais au-delà du cas grec, en quoi l'Europe a failli? Car finalement, quand même dans l'Europe, une relative prospérité, la paix, en tout cas au sein des frontières de l'Union européenne. C'est différent avec l'ex-Yougoslavie, bien évidemment. L'état de droit, on l'a dit, le respect des minorités, ça va pas si mal que ça. En quoi l'Europe a failli pour vous, sachant qu'elle est la démocratie que reprend Royaume-Uni, en quoi elle n'est pas, et pourquoi elle n'est pas si séduisante qu'elle a été?
Il y a plusieurs raisons. L'opacité du processus de prise de décision, par exemple. Et des bureaucrates gris à Bruxelles. Pour la population, Bruxelles est très loin. Et tout le processus de prise de décision semble loin.
Surtout quand on est à Athènes, quand on prend l'avion à Athènes, on va à Bruxelles, on dit on va en Europe d'ailleurs.
Oui,
alors encore. C'est encore plus loin.
Encore. Mais le fait, c'est que l'Europe n'a pas pu donner des solutions à une crise profonde. Et pourquoi? Parce qu'il y avait des problèmes d'architecture de l'Europe. L'Europe s'élargissait, mais sans pouvoir s'intégrer en même temps. Alors, ces défaillances étaient évidentes quand la crise financière a frappé l'Europe et bien sûr l'État le plus faible, dont la Grèce. Mais là, l'incapacité de donner des solutions à cette crise a fait qu'une grande partie des Européens se sont sentis loin de l'Europe. C'est ça.
Jacques dit qu'une réponse des démocraties libérales, évidemment l'Europe est la première d'entre elles, l'Union européenne, c'est peut-être une Europe qui fonctionne mieux, qui fonctionne plus proche des citoyens, comme vient de l'expliquer Marilina Coppa. On va quand même un peu dans cette direction, en tout cas il y a une prise de conscience.
Oui, il y a, je crois, en ce moment non seulement une différenciation au sein de l'Europe, mais il y a une repolitisation du projet européen, et on le voit sur trois dossiers. La question de la sécurité et de la défense. Soudain, les Européens parlent sérieusement de la défense et de la sécurité. Pourquoi ? Ben, ils ont vu à l'Est Poutine en Ukraine, ils ont vu les États qui s'effondrent au Sud et les islamistes qui ont menacé les Européens concrètement par des actes terroristes. Soudain, la question de la sécurité et de la défense.
Accessoirement, les Britanniques sont en train de quitter l'Union Européenne, ils ne bloquent plus.
Accessoirement. C'est précisément pour ça. Le départ des Britanniques.
Pardon ?
Et Trump qui dit je ne paye plus.
Et Trump qui dit je ne paye plus non plus. Voilà.
Ça amène des. Donc vous avez là des raisons qui amènent les Européens à penser qu'ils doivent eux-mêmes avoir la responsabilité de leur sécurité. Deuxièmement, vous avez la vague migratoire et les Européens, au moins les plus raisonnables d'entre eux, comprennent qu'aucun pays ne peut seul résoudre ce problème. Donc l'idée de construire une clôture comme Orban, c'est une solution individuelle, je veux dire, d'un État, mais la solution européenne, c'est-à-dire avoir des frontières communes, comment les protéger, comment gérer les flux migratoires, se mettre d'accord. Angela Merkel a décrété que Schengen n'existait plus. Venez, bon, 1 million arrive. Mais ça, c'est très bien, il y a des circonstances exceptionnelles comme ça, mais après, il faut redéfinir ce qu'est le Schengen 2. Vous avez aboli Schengen 1, vous devez... Sinon, vous créez alors un boulevard pour les nationalistes et les populistes. Parce que c'est la panique générale, l'Europe, c'est l'insécurité, c'est la peur. Donc, il faut... les frontières, Schengen, le droit d'asile, ça c'est les tâches européennes. Et puis troisièmement, la crise de l'euro, on pense qu'elle est partie. Non, elle est là. On a colmaté les brèches, mais le problème reste. Et donc l'initiative qu'a pris le président français de relancer l'agenda européen avec le futur gouvernement allemand, ça fait partie, voilà, de cette repolitisation du projet européen.
Et
ça, c'est la meilleure réponse à ce qui a été dit. Les bureaucrates gris à Bruxelles, non, ça c'est l'anonymat, voilà. Non, repolitiser, on voit que l'Europe, c'est la réponse politique à la crise qui vous inquiète.
Alors évidemment, on a, et c'est en France, un président très européen, à l'inverse de la situation européenne, ce qui fait qu'on a l'impression que les Français, en tout cas, peuvent avoir le sentiment de vivre dans une bulle européenne. Jacques Rupnik, qu'il faut se méfier.
Faut se méfier, parce qu'il faut quand même voir qu'au premier tour de l'élection présidentielle, on a eu deux candidats. Les anti-européens avaient près de la moitié de l'électorat. Donc on a un président maintenant très, très européen. C'est très important.
Et 10 candidats sur 13 étaient franchement anti-européens.
Oui, donc faut pas se faire non plus trop d'illusions. Mais il y a parfois une dynamique qui peut être créée par une victoire électorale. Je crois que là, quoi qu'on pense de la politique du président français sur d'autres sujets, mais sur le thème européen, ça c'est très important. Parce que si vous avez la cassure Est-Ouest sur la crise migratoire, la démocratie illibérale dont nous avons parlé, et si nous avons, la montée des populismes, la meilleure réponse, c'est de montrer qu'au moins le noyau européen est là,
solide,
et il faut espérer que la crise espagnole ne va pas handicaper ce projet de relance européen.
Réponse le 21 décembre. Début de réponse le 21 décembre. Marilina Coppa, vous voulez rajouter quelque chose?
Oui. Maintenant, 3 millions de réfugiés sont sur les côtes de la Turquie. Ces 3 millions veulent passer à l'Europe. Si l'Europe ne trouve pas une solution viable, alors la question sera encore pire, la situation sera encore pire et le populisme va faire des scores pas possibles.
Si l'Europe n'apporte pas les réponses, les Orban, il y en a d'autres potentiels, les clôtures, les murs, voilà.
Tout à fait.
Trump va construire son mur avec le Mexique, et bien les Orban ou les Trump européens essaieront de construire leur mur. C'est pour ça que je disais que la réponse est européenne. Sur le plan de la sécurité, les frontières, le droit d'asile, si vous n'avez pas de réponse européenne, d'autres s'en chargeront.
Merci, c'est le mot de la fin, Jacques Lepic. Merci à tous les trois d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Merci aux équipes des rencontres d'Averroès et à celles du Théâtre de la Criée à Marseille. Réalisation Bertrand Eclair. Sur la page de l'émission Carrefour de l'Europe RFI, des infos sur nos invités pour réécouter ce Carrefour et d'ailleurs tous les autres. RFI.fr et les applis mobiles et gratuites de RFI. On reste en contact via Facebook et Twitter. Daniel Ezesquel, où que vous soyez, à Marseille, Paris, Athènes, Istanbul, Prague, ailleurs en Europe ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir. Et tout de suite, un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde.